et d'orientation du pôle relais. Je vais passer tout de suite la parole à Laurent Meyer, en tant que DREAL adjoint. Donc je vous remercie d'être venu sur la scène.
Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Laurent Meyer, je suis directeur général adjoint de la DREAL Atlanta et je représente un groupe qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et qui vous fait toutes ces émotions. C'est pour moi un grand plaisir d'être là. Alors, j'avais eu la chance et le privilège d'avoir été invité il y a 2 ans et à présider effectivement aussi cette commission d'orientation. Et à l'époque, on avait eu une réflexion extrêmement intéressante toute la matinée. C'était à peu près la même structuration d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec des ateliers. Et voilà, ça a été un moment extrêmement important d'acculturation de pas mal de partenaires et surtout de se remettre finalement dans les mains de cette réflexion sur les zones uniques et comment nous, collectivement, avec les relais que nous déployons, avec les outils à notre disposition, nous pouvions faire avancer la cause de cette gestion, de la préservation, de la valorisation des zones uniques. Alors, peut-être un ou deux mots pour un peu nous remettre dans le contexte, même si vous toutes et tous êtes des pratiquants aguerris des zones humides. C'est intéressant un petit peu de faire un peu une présentation du contexte institutionnel. Vous savez que nous avons la chance d'avoir 5 pôles relais zones humides en France. Alors, je vais les citer pour pas les écorcher. Nous avons les mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, les pôles relais sur les tourbières, le pôle relais sur les marées atlantiques, Manche et mer du Nord, et les pôles relais sur les zones humides de l'outre-mer, qui est assez récent puisqu'il a été créé en 2012, et naturellement le nôtre, donc ce pôle relais sur les lacs méditerranéennes. Alors la spécificité de ce pôle relais est très forte, puisqu'il il englobe 3 régions, la Corse, l'Androcroussillon, PACA. Et surtout, il a la chance et cette spécificité d'avoir des acteurs, chacun bien implantés dans les territoires, ce qui permet effectivement d'avoir un levier de transfert, un levier d'action territoriale extrêmement fort. Alors, on va les citer naturellement la Tour du Valat, et je tiens d'abord à remercier effectivement Jean et toutes ses équipes de cet accueil chaleureux, toujours dans un lieu absolument extraordinaire, exceptionnel. La Tour du Valat, l'Office de l'Environnement de Corse, je ne sais pas si je les ai déjà salués. Ils sont encore arrivés, c'est ça? Ah bon, bah, alors, en tout cas, on les saluera, on leur fera une big ovation quand ils arriveront. Non, c'est voilà, à mon avis, la distance, et on peut leur savoir gré d'avoir un peu de retard. Et le Sénat de Croussillon, est-ce que je vais. Voilà, d'accord, merci. Donc c'est un peu les 3 piliers opérationnels, effectivement, de ce pôle relais, et naturellement les équipes de la Tour du Valat. Donc. Voilà, levez-vous, si vous voulez, vous levez la main pour qu'on puisse vous voir. Voilà, c'est quand même les chevilles ouvrières, donc il faut bien les saluer. Donc, blague à part, un peu l'organisation, il y a un comité de pilotage avec le NEMA, l'ADREAL, l'Angle-Roussillon, l'ADREAL-PACA, l'ADREAL-Corse, l'Agence de l'eau, les conseils régionaux, et naturellement les 3 structures porteuses que j'ai présentées. Et puis, une fois tous les 2 ans plutôt, il y a ce comité d'orientation. Donc, vous êtes là, représentant effectivement l'établissement public, les collectivités, l'État, où on se pose, et on se pose des vraies questions de où est-ce qu'on veut aller. Alors, naturellement, avant de savoir où on veut aller, on fait aussi un petit peu un feedback de ce qu'on a fait pendant les 2 dernières années, ce qui permettra d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, de voir un peu comment nos réflexions d'il y a 2 ans étaient traduites. Et surtout, ben, on se pose collégialement la question de où est-ce qu'on veut aller, quels moyens on se donne. Et cet avis, puisque c'est un avis, va pouvoir nourrir la gestion au quotidien des pôles relais, et puis au quotidien, et leur donner un peu l'impulsion qu'il faut. Alors, plusieurs éléments importants sont arrivés depuis les 2 ans. Alors, je tiens à dire. Avec beaucoup de satisfaction, parce qu'on en parlait, beaucoup il y a 2 ans, il y a enfin une charte de reconnaissance des pôles relais, zones humides. Cette charte qui est signée donc avec les pôles relais, également avec le ministère, particulièrement la direction de l'eau et de la biodiversité, et je crois le NEMA. Donc cette charte, c'est un véritable signe de reconnaissance finalement de l'importance qu'ont ces pôles relais, zones humides, dans le cadre du plan national d'action en faveur des milieux humides. C'est une reconnaissance, certes, mais c'est aussi un engagement, finalement, un engagement de tous les partis. C'est un engagement sur 3 ans, hein, Jean, tu me contrediras si je dis une bêtise. C'est un engagement sur 3 ans, en fait, conventionnellement, quelque part aussi, et aussi un signe distinctif de l'importance que ces pôles relais ont dans la pratique et dans la mise en œuvre de ce plan national en faveur des zones humides. Alors, le plan national en faveur des zones humides, c'est important aussi de le citer. Il a été renouvelé puisque le nouveau plan va courir de 2014 à 2018 avec un certain nombre effectivement d'actions et met en exergue le rôle des pôles lagunes, des pôles relais. Savoir que ce rôle, nous en parlons largement dans la restitution, c'est à la fois la notion de réseau de manière générale. Comment mettre en œuvre et autour de la table des acteurs qui ont en commun cette passion, cette motivation, cet ADN finalement de prendre en compte les zones humides dans toute leur spécificité, à la fois leur spécificité de richesse biologique, de richesse de milieu, mais également institutionnelle, de gestion, de spécificité également de partenariat avec les acteurs locaux. Comment toutes ces structures-là peuvent se mettre en réseau pour échanger, comprendre un petit peu comment l'un ou l'autre fait bien les choses, se faire un petit peu des échanges de bonnes pratiques, de connaissances, également de connaissances à la fois scientifiques, mais aussi de bonnes pratiques, mais également de valorisation et de mettre en commun la manière de pouvoir toucher au mieux les uns les autres pour pouvoir porter l'importance des zones humides au sein de notre territoire, au sein de nos politiques. D'autant plus important que nous sommes dans des régions, vous savez encore mieux que moi, où les pressions sont extrêmement fortes. On a beau avoir mis en place, je pense par exemple au SDAJ, qui est en cours de rénovation, des notions de compensation, pour le 2 pour 1, des choses comme ça, on se rend bien compte qu'on est en train de complètement morceler, émietter, consommer, malheureusement, ces zones humides qui... au-delà de leurs bienfaits, on va dire, de l'habitat, sont de véritables poumons de la biodiversité, de poumons de la nature, dont on a extrêmement besoin. Ce sont aussi des filtreurs, ce sont aussi des ils ont tout un nombre assez impressionnant de fonctionnalités écologiques qui nous servent, qui servent la nature, mais qui nous servent aussi, nous, humains, qu'il ne faut pas oublier. Malheureusement, ces pressions sont extrêmement fortes dans notre région. C'est pour ça qu'on a besoin de promouvoir, on a besoin d'animer, on a besoin de faire comprendre, de sensibiliser, puis on a besoin aussi de monter des choses concrètes, des plans d'action, de trouver des acteurs, des institutionnels, des financiers. C'est là que la Tour du Vala et ses acteurs sont très très importants parce qu'ils savent comment monter des plans, monter des actions. Et c'est très très important d'avoir cette ouverture-là. Alors, naturellement, le ministère en charge de l'écologie que je représente est extrêmement sensible aux actions qui sont faites par les pôles relais, tout simplement parce que les pôles relais servent plusieurs de nos politiques, concourent, nous aident dans plusieurs de nos politiques de manière concrète, à la fois les politiques, vous l'avez compris, les politiques de l'eau, mais également les politiques de la protection naturelle. Et on est vraiment là dans l'opérationnel qui vient fusionner ces deux approches. Je ne vais pas trop m'apesantir, si ce n'est qu'on voit là l'importance du croisement de plusieurs approches, des approches entre les scientifiques, des approches entre les gestionnaires, des approches entre les institutionnels, et puis des approches aussi du monde un petit peu courant qui cherche à comprendre ce que peut être les zones humides. Toute cette fusion donc, de différentes approches, vous êtes là pour les mettre en exergue, vous êtes là pour leur donner une impulsion et pour que, quelque part, on puisse aller vers du concret, qu'on puisse aller vers la préservation de ces ressources qui nous sont extrêmement riches, qui sont vraiment très importantes pour nous. Voilà. Donc je n'ai que d'autres mots à dire, que c'est pour moi naturellement toujours un grand honneur de participer à ces réflexions. Vous avez le soutien plein et entier de, naturellement, du ministère en charge de l'écologie et de ces modestes serviteurs locaux que sont les DREAL et les services de l'État. En tout cas, c'est toujours pour nous un honneur de pouvoir travailler avec vous. Et surtout, nous allons maintenant travailler tous ensemble et aller dans le vif du sujet, échanger. Donc la parole est libre, les ateliers sont là pour qu'on construise. Et puis voilà, soyons fous et construisons ensemble l'avenir, un avenir meilleur pour les choses qui nous sont chères et notamment aujourd'hui les États-Unis.
Beaucoup, Laurent. Je crois que tu as brossé largement la situation et ce qui nous attend aujourd'hui. Je serai bref pour ma part. Donc, d'abord, bonjour à tous et bienvenue à Tour du Valat. Je m'appelle Jean Jalbert et je suis donc directeur de la Tour du Valat. Je voudrais juste dire quelques mots pour prendre un peu de recul sur l'enjeu des zones humides. Les zones humides au niveau de la planète, c'est à peine plus de 6% de la surface des écosystèmes terrestres. Pourtant, c'est plus du quart de la productivité primaire, donc la base de la chaîne alimentaire de la planète. C'est aujourd'hui près de la moitié des services écosystémiques qui ont été évalués des différents écosystèmes. Donc on voit que c'est un écosystème absolument essentiel, à la fois à la biodiversité, au fonctionnement des écosystèmes, mais aussi au bien-être des hommes. Et dans le même temps, on a pu, grâce à une grande étude mondiale faite il y a quelques années, démontrer que c'est aussi l'écosystème qui pâtit le plus, qui est le plus détruit, dégradé par le même homme qui en bénéficie. Donc c'est un paradoxe absolument étonnant, mais une réalité objective. Donc notre enjeu à nous tous, c'est bien d'inverser cette tendance. Et cette tendance, on la voit à l'échelle globale. On estime qu'à l'échelle de la planète, plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours du dernier siècle. En France, les chiffres ont dit 67%. Alors, bah, bon, ensuite, on peut faire des compétitions entre pays. Toujours est-il que cette tendance est partout sur la planète, à des degrés plus ou moins accusés. Ces zones humides, écosystème le plus prodigue et le plus profitable pour l'homme et le plus détruit par l'homme. La France a depuis un certain temps a pris conscience, notamment depuis 1995 avec ce premier plan d'action, a pris conscience de l'enjeu, a pris conscience aussi que les politiques publiques étaient pour grande partie responsables de cette destruction et donc a eu la volonté de mettre en place un plan d'action. Donc on est maintenant au troisième et tu le rappelais, cette année 2014, la ministre de l'écologie a présenté et fondé le troisième plan d'action pour les milieux humides, puisque maintenant on parle de milieux humides. Et donc nous en sommes très satisfaits parce que c'est la démonstration d'une volonté qui nous semble encore pas assez politiquement affirmée parce que, enfin, on regarde les enjeux, mais voilà, c'est important que ce plan existe. Ce plan suppose que tous les acteurs, hein, c'est pas bien sûr l'affaire simplement du ministère de l'écologie ou de quelques acteurs impliqués, c'est un plan qui se veut engager tous les acteurs de différents secteurs, bien sûr du secteur de l'agriculture, de l'urbanisme et bien sûr de l'écologie, et qui repose sur un certain nombre de dispositifs. Tu l'as dit, les pôles relais, le ministère de l'écologie, il y a une dizaine d'années, a voulu être au plus près du terrain, s'est aperçu d'abord que le premier plan était un plan un petit peu hors sol, justement, qui était très, très ambitieux, très théorique, et justement qui n'a pas su faire celui avec le terrain. Il a souhaité s'appuyer sur un dispositif qui puisse être au plus près du terrain. Et les pôles relais, à ce moment-là, ont été créés. Ces pôles relais, donc aujourd'hui, tu l'as dit, il y a 5 pôles relais, chacun spécialisé sur un type de zone humide particulier. Leur objectif, c'est surtout pas de faire le travail à la place des autres. C'est vraiment, et on en parlait encore tout à l'heure, et vous en avez les témoignages concrets, nous avons la chance, et notamment sur les lagunes méditerranéennes, d'avoir beaucoup d'acteurs. Toutes les lagunes ont leur gestionnaire, ce qui est vraiment quelque chose d'important. Et on n'a pas, en France, toutes les zones humides n'ont pas un gestionnaire attribué avec un vrai mandat et des moyens pour la protection et la gestion durable. Donc on a la grande chance d'avoir beaucoup d'acteurs. Chaque grande zone humide, chaque lagune a son gestionnaire. Beaucoup d'acteurs scientifiques, beaucoup d'acteurs institutionnels. Et l'enjeu, c'est vraiment maintenant d'être dans l'interstitiel, dans les interfaces. Faire en sorte que, au niveau national et au niveau local, entre les scientifiques, les gestionnaires, les décideurs, l'information soit partagée, que l'action soit concertée, et qu'ensemble, on puisse trouver les meilleures solutions les plus efficientes, les moins coûteuses. On sait aussi qu'on est dans des temps qui sont un peu compliqués financièrement. Donc l'objet, ce n'est pas de demander toujours plus d'argent, d'avoir plus de moyens, mais justement, on a un engagement, une nécessité d'être dans l'efficience, d'optimiser tout ça. Cette charte de reconnaissance des pôles relais, pour nous, est un élément important, effectivement, que nous appelons de nos voeux depuis des années, puisque les pôles relais avaient été créés par le premier plan d'action zone humide. Le second plan ne les mentionnait comme un acteur existant, mais ne les fondait pas. Or, c'est un dispositif qui n'a pas de structure juridique, il n'existe que par la volonté de l'État de s'appuyer sur ces dispositifs. ça. Donc voilà, grand merci au ministère, à l'ONEMA, à tous nos partenaires d'avoir, aux agences de l'eau, d'avoir fondé, en tout cas d'avoir donné une réalité concrète à ces pôles relais, qui va nous aider aussi à être plus cohérents aussi entre pôles relais, puisqu'en fait, ce sont des dispositifs qui étaient un petit peu innovants, qui ont été. C'était un appel au volontariat, que Culture voulait, et c'est cette idée pertinente sur un type de zone humide, et donc chacun a mis en place des dispositifs différents. Tu l'as dit, ici, pour les lagunes, on a souhaité être vraiment plus près du terrain en s'appuyant sur un vrai partenariat le plus proche possible entre trois structures, chacune légitime sur leur territoire, chacune ayant bien ancré, plus que légitime, ancré et vraiment en dialogue avec les acteurs locaux, le Conservatoire des espaces naturels du Grand Roussillon, l'Office de l'environnement de la Corse, et puis la Tour du Valat pour la région PACA. Voilà, donc cette reconnaissance va vous permettre à nous tous, chacun des pôles, de pouvoir avoir à la fois un mode d'action, un mode de gouvernance qui soit assez homogène, le plus homogène possible, pour être justement plus efficace pour une politique nationale, pour alimenter une politique nationale et à mettre un relais, un vecteur efficace sur le terrain. Voilà, nous avons, au-delà de Laurent Neyer, représentant localement le ministère, nous avons le plaisir d'accueillir aussi aujourd'hui Ghislaine Ferrer, donc, qui est assez récente dans ce poste, qui a remplacé Manuel Thierry, que vous connaissez probablement tous, qui était en charge de porter, d'animer ce plan d'action zone humide au niveau national, au ministère de l'écologie. Donc, merci Ghislaine de nous avoir rejoint pour ce colloque. On est sensible à ta présence et c'est important qu'on puisse partager l'actualité et être acteur aussi de ce plan au niveau national. Voilà, comme tu disais, le comité d'orientation, c'est un moment important pour nous et vous verrez que les recommandations d'il y a 2 ans ont vraiment guidé le travail du comité de pilotage au cours de ces 2 années et du coup la réalité concrète de l'action du pôle. Et tout ça avec un comité de pilotage, et là je voudrais saluer nos partenaires que sont à la fois l'Agence de l'eau pour le Méditerranée Corse, l'ONEMA, les collectivités territoriales, les régions, PACA, le Roussillon, les collectivités de Corse notamment, et les départements. On a vraiment, je pense, et là aussi c'est un peu une particularité de ce pôle relais, on a maintenu une gouvernance qui me semble assez exemplaire, je ne sais pas si le mot, en tout cas quelque chose qui fonctionne et qui a du sens, où effectivement entre des acteurs techniques, institutionnels des bailleurs, on arrive et dans un excellent esprit à ajuster, y compris dans les moments difficiles où les ressources sont moins là, où chacun a un enjeu différent du voisin, mais on arrive toujours à avoir ce dialogue, construire, garder le cap et trouver les meilleurs moyens les plus efficients pour avancer. Donc voilà, je ne serai pas plus long, merci encore d'être là aujourd'hui parmi nous. Ce comité d'orientation est un moment très important, encore une fois, pour voir si la feuille de route que vous nous avez tracée ou suggérée en tout cas il y a 2 ans a été respectée, si ça fait sens. Et puis rediriger le tir, voir au regard des enjeux pour demain, sur quoi devrions-nous justement augmenter notre impact, implication pour être plus efficient et plus impactant, positivement bien sûr. Voilà. Merci à tous et bonne journée, et j'espère productive, et j'en doute pas en tout cas. Merci.
Un mot pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une équipe de tournage là qui nous tourne autour. Donc il y a en fait un film qui est en cours de réalisation à la Tour du Valat. Et dans ce cadre-là, il y a un petit film court qui sera dédié aux institutionnels. Donc c'est pour ça qu'ils ont souhaité faire quelques images de la réunion. Simplement pour les personnes qui ne souhaiteraient pas apparaître dans ce film, s'il y en a, de pouvoir vous placer peut-être sur les côtés des tables. C'est peut-être un peu tard pour vous le dire, mais...
Mettre un cagoule.
Non, mais en tout cas, bon, s'il y a vraiment une opposition de certaines personnes, ou en tout cas nous le dire, donc spécifier pour que les images éventuellement soient coupées. Je donne la parole à Ghislaine Ferrer pour la suite.
Merci, bonjour à toutes et tous. Merci, je pense que je vais enfin remercier... d'une part, pour la présentation, donc effectivement, je reprécise juste Michel Ferrer, donc je prends la suite d'Emmanuel Thierry, effectivement, du ministère de l'écologie, donc sur, en tant que chargé de mission sur les milieux humides. Je suis là depuis peu de temps, donc j'espère que j'arriverai à répondre à vos questions si vous en avez. Je suis encore tout à fait au point. Voilà, ce que je souhaitais dire juste en introduction, c'était d'abord remercier, relever en tout cas la qualité du travail qui est réalisé par le pôle le relais Lagune Méditerranéenne, qui est très très reconnu voilà, depuis sa création. Et remercier également pour son accueil, est très efficace et très chaleureux, l'équipe de Tour du Valin, qui nous permet d'arriver ici ce matin sans encombre, notamment. Voilà, donc un grand merci. Je vais essayer de vous présenter rapidement, c'est pas gagné, le cadre national en fait, dans lequel tout ça s'inscrit, avec un petit rappel en fait sur le plan national d'action. Sur les milieux humides qui a été lancé donc en juin 2014 avec un petit rappel rapidement sur le plan d'action précédent qui avait donc couvert la période 2010-2013 qui était le second plan d'action effectivement assez pratique par rapport à comme disait Jean-Albert effectivement un premier plan d'action en 1995 qui était en effet un peu hors sol. Avec donc une recherche de prise en compte des milieux humides qui sont à la croisée de tout un tas de réglementations et d'activités. Donc une meilleure prise en compte dans l'agriculture, l'urbanisation, une meilleure cohérence des politiques publiques à leur égard. Un renforcement de connaissances, un développement de formation et de sensibilisation à ces thématiques, puisque les milieux humides sont assez mal connus en tant que thème et valorisé, et donc il est valorisé également au niveau international, puisque nous sommes dans le cadre d'une, peut-être rappeler ça quand même, d'une convention internationale qui est la convention de Ramsar. Alors, le bilan qui a été fait de ce deuxième plan d'action et sur lequel s'est appuyée la définition du troisième plan d'action, ce deuxième plan d'action a réussi à mobiliser les acteurs. Il y avait notamment effectivement un point fort particulièrement sur l'action justement des pôles relais. Il a été noté que le groupe national effectivement avait été très actif, le groupe national qui est mis en place pour la mise en œuvre et le suivi du plan d'action. On a eu une forte implication des agences de l'eau, c'est un point très très fort également donc sur les acquisitions et pour la protection des espaces, et également sur l'utilisation des maîtres d'ouvrage pour la restauration et la gestion des eaux humides. Et donc on a eu un effet d'entraînement avec beaucoup d'initiatives prises, de promotion de bonnes pratiques. Je préciserai aussi effectivement la convention de le renforcement des liens avec la création également de l'association Ramsar France, qui a été créée pour renforcer le lien entre le niveau international et le niveau local. Alors les points faibles effectivement qui avaient été relevés, c'était malgré tout que le plan en soi n'avait pas réussi à inverser la tendance de dégradation, qu'on avait toujours un déficit de connaissances important. Et que effectivement on a un certain nombre d'actions qui n'avaient pas pu être lancées. Alors sur ce troisième plan d'action lancé donc en juin 2014 par la ministre, donc une petite précision effectivement, on change un petit peu de paradigme, on essaye de parler désormais de milieux humides et non de zones humides. Pour quelles raisons? Parce qu'effectivement zones humides, ça renvoie beaucoup à la police de l'eau et à l'acception police de l'eau en fait qui est un peu restrictive. Donc l'idée c'est effectivement d'essayer de porter une thématique milieu humide plutôt qu'une thématique zones humides, même si effectivement aujourd'hui c'était pas très parlant pour tout le monde. Alors on a six axes, alors je vais vous présenter très rapidement uniquement les axes effectivement. Donc on a un axe, je ne vais pas rentrer dans les actions en fait qui sont définies. Simplement ce que je peux préciser quand même c'est que la raison en fait d'être de ce plan d'action c'est aussi de pas forcément de créer beaucoup d'actions nouvelles, mais en tout cas c'est de regrouper les actions, l'ensemble des actions sur l'ensemble des domaines effectivement qui ont pour but la meilleure préservation des milieux humides. Donc les axes que l'on trouve dans ce plan sont un axe donc de renforcement de la mise en œuvre de la convention de Ramsar, qui est un peu l'axe chapeau, hein, puisque de toute façon c'est ce qui se décline finalement à tous les autres axes. Ah bon, avec une meilleure implication en tout cas du ministère lui-même au niveau international. Axe 2, qui est toujours un axe absolument essentiel, c'est le développement de la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides. Il y a pas mal d'actions effectivement sur les outils à développer. Un axe donc sur toujours l'entretien, la préservation et la reconquête des milieux humides, bien entendu. Je ne rentre donc pas non plus dans le détail. Un axe sur le renforcement de la prise en compte également dans les politiques de gestion de l'espace. puisque une fois de plus, on est au carrefour d'un certain nombre de politiques. Et donc, c'est une des grandes difficultés de cette climatique humide. Donc, avec notamment, évidemment, un sous-axe politiques agricoles et un sous-axe sur les autres politiques, donc la prévention des inondations, qui est une thématique qui monte, les captages d'adduction d'eau potable, la gestion des têtes de bassins versants, les directives cartes sur l'eau et également la chasse. L'axe 5, qui est une approche, donc soutenir une approche territorialisée, effectivement, avec là des questions d'urbanisation, de prise en compte dans les zones urbanisées, qui est aussi un axe très fort et qu'on souhaite étudier très fortement. L'outre-mer également, qui est un axe sur lequel il est nécessaire d'avancer. Et puis, donc, un axe littoral et estuaire, parce qu'on a des prises en compte un peu spécifiques sur cet axe-là. J'ai développé le sixième axe un tout petit peu, c'est-à-dire les trois actions du sixième axe, puisque le sixième axe concerne très particulièrement, très directement les pôles relais, même si les pôles relais peuvent s'inscrire dans d'autres actions des autres axes, avec notamment les actions 50 et 52. Alors, l'action 50 qui porte sur le dispositif de communication, formation et sensibilisation, sur lesquels nous allons en revenir, mais donc qui est une action phare dans laquelle s'inscrivent les pôles relais, et l'action 52 qui est également qui concerne également les pôles relais de très près et qui est de renforcer donc les démarches de communication événementielle pour arriver, puisqu'on se rend compte, même si ça avance, que c'est encore difficile, pour arriver à intégrer cette connaissance en fait des milieux humides et de leur fonctionnalité, de leur intérêt à tous les niveaux. Enfin, dans tous les publics. Très rapidement, la gouvernance prévue pour le plan national d'action, comme précédemment, en fait, on a un groupe national qui suit ce plan, donc qui l'a défini et qui va suivre donc annuellement. Il a été légèrement revu pour complément. Il a été décidé donc de le faire présider par une personnalité en fait qui n'était pas le cas jusqu'à présent, qui est Monsieur François Mitot, qui est directeur général adjoint donc à la région Poitou-Charentes et qui est en charge des questions d'agriculture, enfin d'environnement et d'agriculture notamment, qui est l'ancien directeur de l'établissement public du Marais-Poitevin, donc il connaît assez bien ces questions-là. Et donc il va démarrer d'ailleurs très prochainement, puisque la première réunion de ce groupe pour le lancement en fait de la mise en œuvre est prévue le 18 décembre prochain. A priori, donc, on va essayer de travailler avec un groupe national et des sous-groupes thématiques pour sous-groupe agriculture, sous-groupe urbanisme. On va voir comment les choses se passent. Ce sera proposé et défini le 18 décembre. Alors, je vais essayer de passer donc, rapidement sur un petit focus en fait sur les pôles relais. Alors, les choses ont été rappelées d'ores et déjà en introduction, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Donc, effectivement, la création du pôle relais en 2001, c'est peut-être des choses que vous avez de toute façon tous déjà bien en tête. Pour constituer un réseau d'échange entre les pôles relais et avec les acteurs concernés, mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques, les diffuser auprès des acteurs professionnels, c'est un des liens essentiels. Sachant que l'animation Interpol donc, est réalisée par l'ONEMA, représentée ici par Pierre Kestetter, que je salue au passage. Et puis, au niveau des financements, donc on a effectivement également l'ONEMA, donc à titre principal, on va dire. Et puis, bien sûr, les agences de l'eau, l'État via les DREAL concernés, les collectivités, bien sûr, qui beaucoup également, les structures animatrices elles-mêmes, et puis également l'Europe, donc par le FEDER. Je vais passer sur ce slide-là, puisque effectivement cela vient de vous être rappelé, donc les cinq pôles relais. Ce que je vais juste préciser en fait sur les pôles relais, c'est qu'effectivement on a des structures, ce qui est très intéressant comme démarche, c'est qu'on a des structures très différentes les unes des autres, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière, et qu'on a justement des dynamiques assez riches en fait, qui sont portées par les différents pôles relais, et également, ce que je précise également, un rapprochement et un regroupement qui est très intéressant justement dans le travail inter-pôle relais qui est animé par l'ONEMA. Sur les pôles relais, le bilan du deuxième plan national, donc relever le rôle très très positif qu'ils ont joué, en fait, qui a vraiment été souligné par l'ensemble des acteurs de l'eau et du milieu aquatique. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est gagné et qui est vraiment reconnu. c'est une vraie force d'intervention et d'impulsion qui vient en complément et pas du tout, qui a su trouver sa place, qui n'est pas du tout en répétition de ce que font les autres opérateurs, États et opérateurs, qui permettent donc de renforcer des passerelles qui sont parfois difficiles effectivement entre local et national. Et donc le deuxième plan demandait, le bilan du deuxième plan demandait très clairement, et ça a été un souhait absolument général, une pérennisation des pôles. Alors donc je reviens rapidement sur la charte, effectivement, du coup, qui est un petit peu la manière d'offrir un nouveau support, en fait, une reconnaissance et un support, un cadre pour les pôles relais, donc qui a été signé le 31 janvier 2014. Donc qui est effectivement, c'est une reconnaissance attribuée pour 3 ans renouvelables, ce qui a été déjà rappelé, avec un petit rappel du cadrage, en fait, comment cela fonctionne. L'idée c'était de rappeler un petit peu ça, et surtout de réaffirmer la place privilégiée des pôles relais. Et de réaffirmer le soutien en fait de l'État, des agences et offices de l'eau et de l'ONEMA au sein de Pôle Relais et à cette organisation très, très particulière et très pertinente. Sur le dispositif concernant la communication, l'éducation, la sensibilisation et la participation, donc là je voulais juste préciser effectivement qu'on a je pense que vous connaissez sans doute très bien déjà ce dispositif. On a donc, dans le cadre de Ramsar, de la Convention internationale Ramsar, effectivement, une demande à l'ensemble des pays contractants d'avoir la définition d'un dispositif de communication, d'éducation, de sensibilisation et de participation sur les zones humides. Donc ceci a été fait donc, en France, donc un dispositif qui a été défini pour les années 2012 à 2014, avec en gros 3 axes, que je rappelle rapidement, qui touche les acteurs publics exemplaires, donc que ce soit l'État, ses opérateurs ou les collectivités et leurs opérateurs, les citoyens, également les citoyens, donc le grand public, disons, qui est un axe majeur également, et puis les acteurs socio-professionnels, donc qui soient responsabilisés par rapport aux zones humides, à ce qu'ils font, et qui soient valorisés, justement, de leur bonne pratique. Dans le cadre de ce dispositif, donc il est prévu une action 2, donc qui était une action à mettre en œuvre immédiatement, qui était justement de conforter le réseau des pôles relais, puisque c'est une des structurations majeures en fait du dispositif CESP. Concernant ce dispositif, donc on a là plus précisément en fait j'ai repris une diapo de Pierre Christécar de l'ONEMA qui était un peu plus précise sur le dispositif CESP. Donc on a effectivement 13 actions dans ce dispositif, avec notamment la définition de la charte pour le relais qui vient d'être signée, la contribution également à l'Observatoire national de la biodiversité et donc notamment à l'Observatoire national des milieux humides. Donc développer les liens avec les réseaux d'éducation à l'environnement et au développement durable, augmenter les compétences par des formations, des séminaires et des colloques, transférer les connaissances de la recherche et du développement vers les gestionnaires, donc avec un axe très important qui va être présenté aujourd'hui, je crois dire, sur les rapports aux actions menées par le pôle, sur justement le rapprochement, en fait, la mise à disposition de connaissances au niveau des gestionnaires, de promouvoir le portail national de zones humides, ce qui a été largement fait, de construire des messages clés, de lancer des campagnes nationales de communication, et de construire donc des liens entre effectivement le ministère au niveau national, disons, et l'administration locale. Alors, je vais peut-être pas continuer sur les diapos, mais simplement préciser que effectivement, par rapport à cette donc un des axes, c'est vraiment le dispositif de base de l'action qui est donc 2012-2014, donc il est dans sa dernière année, et donc un des axes, un des points majeurs en fait qui est inscrit dans le troisième plan national d'action, c'est de dans l'axe 6, donc c'est effectivement de faire le bilan ce dispositif 2012-2014, qui n'a pas démarré, donc en fait, comme il est assez tard en 2014, en gros, c'est quelque chose que nous ferons l'an prochain, et que, sur la base de quoi, avec également la définition des besoins, enfin, demande des besoins des différents acteurs, la redéfinition d'un nouveau dispositif pour les années à venir. Voilà, donc ça c'est ça pour préciser effectivement que l'année 2015 va porter là-dessus et qui sera demandé évidemment une contribution majeure forcément au pôle relais sur cette définition de dispositif pour les années suivantes. Voilà, je pense que je vais peut-être quelques diapos plus précis sur la CESP, mais je vais peut-être m'en tenir à ça. Voilà, je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des questions à Ghislaine de précision sur cette politique nationale? Voilà, donc on va enchaîner sur la stratégie du pôle Lagune et ses actions au regard des comités d'orientation précédents. En espérant que les Corses nous rejoignent. Donc simplement pour revenir sur le cadre de la journée, là donc on est sur cette partie-là, donc on va vous présenter la stratégie du pôle Lagune. Ensuite on se répartira en ateliers. Donc vous vous êtes inscrit au préalable là sur 3 ateliers. Donc on fera ça avant le déjeuner. On déjeunera entre 12h30 et 14h à peu près pour se retrouver ensuite vers 14h15. Synthétiser les ateliers avec les rapporteurs par atelier et proposer vraiment les axes de travail du comité d'orientation pour le programme Pôle Lagune 2015-2016. Donc simplement l'idée c'était de vous présenter comment on fonctionne vraiment sur le pôle relais parce qu'il y a certains acteurs qui nous rejoignent. Voilà les Corses. Parfait. On en était à la stratégie du pôle Lagune. Voilà. Simplement pour repréciser un petit peu les choses. Donc ça a été rappelé précédemment. Donc le pôle relais émane vraiment d'une politique voulue par le ministère, du plan national d'action en faveur des milieux humides. Donc au départ de 1995. Donc là on est sur un plan d'action 2014-2018. Avec également, Ghislaine le disait à l'instant, la stratégie, ce qu'on appelle stratégie CESP, communication, éducation, sensibilisation, participation. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit le pôle relais Lagune. C'est l'ONEMA qui est en charge de coordonner l'ensemble des pôles relais zones humides pour le compte du ministère. Donc les 5 pôles relais zones humides qui ont été cités. Ces pôles relais fonctionnent donc effectivement avec des structures différentes en fonction des pôles relais, mais ont tous les mêmes objectifs qui sont donc de mutualiser les connaissances, animer un réseau d'échanges et participer évidemment à la politique nationale en faveur des milieux humides. Les pôles relais participent également à l'animation des portails internet qui sont coordonnés par l'ONEMA. Donc il y a 2 portails auxquels contribuent les pôles relais, le portail sur les zones humides et le portail sur les documents techniques sur l'eau. Donc on a tous en fait dans nos missions un devoir d'animation, de co-animation de ces portails internet. Pour ce qui concerne l'organisation du pôle relais Lagune en particulier, donc on a effectivement le comité d'orientation qui nous intéresse aujourd'hui avec les 3 collèges, les institutionnels, les gestionnaires, les scientifiques. Donc ce comité d'orientation, ça a été rappelé, a pour but de vraiment proposer des recommandations qui sont ensuite validées par le comité de pilotage. Ce comité, il est présidé par l'ADREAL PACA et il y a également dans ce comité les financeurs et les structures porteuses du pôle Lagune. Donc en fait, chaque année, 3 fois par an, on se réunit avec ce comité de pilotage et on réfléchit aux actions qui vont s'inscrire dans les objectifs du pôle relais Lagune méditerranéenne. Donc comment nous viennent ces actions? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le comité d'orientation qui nous réunit une fois tous les deux ans. Il y a les actions qui émanent du terrain, notre contact régulier avec les acteurs du terrain. Et il y a éventuellement la stratégie de nos financeurs qui peut éventuellement nous orienter sur nos missions. Nos objectifs, ils s'organisent selon trois axes. Donc c'est mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques, animer un réseau d'échanges et sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés. L'objectif pour nous, c'est vraiment de favoriser une meilleure reconnaissance des lagunes et d'encourager des meilleures pratiques de gestion sur ces milieux. En pratique, c'est la Tour du Valat qui coordonne le projet, donc qui porte le pôle relais et qui coordonne toutes les actions interrégionales sur le pôle relais. Donc on est également en charge des outils interrégionaux qui sont le site internet, la lettre des lagunes, les bases de données documentaires. On a ensuite une animation territoriale, donc en Languedoc-Roussillon, c'est le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en PACA, c'est la Tour du Valat, et en Corse, c'est l'Office de l'environnement de la Corse. Et l'idée, c'est vraiment d'être au service de tous les acteurs des milieux lagunaires, donc que ce soit à la fois les gestionnaires, les scientifiques, les élus, les agents des collectivités et de l'État, les socioprofessionnels, les associations d'éducation à l'environnement. Donc c'est vraiment la spécificité du réseau du pôle relais d'être vraiment transversal sur l'ensemble des acteurs qui s'intéressent de près ou de loin à ces milieux. On est également en concertation avec les autres réseaux d'acteurs dans les trois régions. Et donc les atouts, comme le rappelait Jean au préalable, donc c'est à la fois la thématique évidemment. On est vraiment le seul centre de ressources qui soit interrégional sur les lagunes méditerranéennes. On est également transversal et interrégional. C'est vraiment ce qui constitue la spécificité du pôle relais, d'être vraiment en lien avec l'ensemble des acteurs, que ce soit vraiment dans chaque région et tous les acteurs qui s'intéressent aux lagunes. La spécificité également et un atout, je pense, fort, c'est qu'on est ancré dans les territoires avec, Jean le disait également, des structures par région qui sont reconnues sur ces régions pour être vraiment les points d'entrée au pôle relais. On est également reconnu pour être une passerelle et un facilitateur entre acteurs et avec le niveau national. Et ce qui, je pense, finalement, est la clé un petit peu du fait que ça fonctionne, c'est la réactivité aussi du pôle relais. C'est-à-dire que quand on a des actions qui nous sont demandées par nos acteurs de terrain, on est à même de construire vraiment un programme en lien avec vos besoins, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas les années suivantes, de pouvoir vraiment avoir cette réactivité pour répondre de près aux besoins qui émanent du terrain. Donc l'équipe aujourd'hui, elle est constituée de 5 personnes qui représentent environ 3,5 équivalents temps plein parce qu'on est toutes plus ou moins à temps partiel. Donc moi-même qui suis la coordinatrice basée à la Tour du Valat. Nathalie Chauquier qui présentera ensuite tout ce qui est outils interrégionaux, donc qui est chargée de la gestion de l'information. Et ensuite on a donc l'animation territoriale en région avec Sonia Bertrand au Conservatoire d'Espace Naturel du Languedoc-Roussillon, Nathalie Barret donc à la Tour du Valat et Guénaël Baldovini en Corse. Voilà, donc sur le plan de financement prévisionnel 2014, on est sensiblement sur le même type de budget qu'on vous avait présenté il y a deux ans, avec peu ou prou le même montant, 360 000 euros. Simplement pour que vous voyez ici la diversité des financements qu'on obtient pour monter un programme avec évidemment toute la complexité qu'il peut y avoir à animer un projet qui relève d'autant de financeurs. Donc on a évidemment l'ONEMA et l'Agence de l'eau Méditerranée Corse qui à eux deux finalement nous permettent d'assurer environ la moitié du budget de chaque année. On a ensuite les trois structures porteuses du pôle lagune, donc le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, l'Office de l'environnement de la Corse et la Tour du Valat. À nous trois, on est environ à 25% du budget du pôle. Et ensuite, donc pour le reste, on va avoir les services de l'État, ici, donc à hauteur d'environ 10% du budget. Et également les collectivités territoriales, on est à peu près sur 10% également. Vis-à-vis du budget 2012, on a eu une baisse en fait des financements à la fois des services de l'État et des collectivités. Mais par ailleurs, on a su aller chercher des fonds européens. Donc à la fois le FEDER PACA qui a été développé en 2012 pour renforcer les activités du pôle relais en PACA et qui a notamment permis la création du poste de Nathalie Barré en charge de mission PACA. On a aussi monté cette année un FEDER sur des films pour valoriser le paysage des lagunes méditerranéennes et notamment de l'étang de Berre. Et puis enfin, on a des fonds privés avec le groupe Accor et EDF qui nous permettent d'assurer l'animation de journées comme les journées mondiales zones humides ou les journées du patrimoine. Donc on a en fait, j'ai pas compté, mais on doit être aux alentours de 13 financeurs sur le pôle relais pour l'année 2014. Ça varie évidemment d'une année sur l'autre. À compter de 2015, la nouveauté, c'est qu'on va avoir un financement de l'État qui va être centralisé par la DREAL PACA, puisque comme vous l'ont rappelé Ghislaine et Laurent précédemment, grâce à cette charte de reconnaissance des pôles relais, on a le pôle relais Lagune qui a obtenu ce label pour 3 ans, reconnu dans ses missions de diffusion de la connaissance. Et dans ce cadre-là, le pôle relais est identifié comme un consortium, en fait, donc Tour du Valat, Office de l'Environnement de la Corse et SNLR. Et ce consortium est reconnu dans cette charte comme étant porteur du pôle relais. Donc, pour être en accord en fait, avec cette charte, on a souhaité que la DREAL PACA centralise les financements pour le pôle relais. Et c'est ce qui va se passer pour la suite avec une organisation au niveau du comité de pilotage pour répartir les fonds État au niveau des 3 régions. Donc simplement, brièvement sur la stratégie, ça vous avait déjà été présenté au dernier Comore. Donc, le constat du premier plan d'action zones humides, le besoin d'une courroie de transmission entre la connaissance et les acteurs de terrain. Donc, la création du pôle relais avec ses 3 missions, donc vraiment la mutualisation des connaissances, l'animation d'un réseau d'échange et la sensibilisation. Comme je vous disais, sur ces 3 axes d'action, on va avoir des échanges avec notre comité de pilotage pour proposer des actions, éventuellement tenir compte des recommandations de ce Comore et de la stratégie de nos financeurs, et déployer ensuite des actions qui émanent de chacun de ces 3 axes. Donc pour le premier axe, mutualiser les connaissances, on va avoir des actions, des outils, le site internet, les bases de données, les publications qu'on peut émettre, pour à la fois recueillir et diffuser l'information auprès des acteurs. Sur ce deuxième axe, animer un réseau d'échange, on va avoir donc tout ce qui est l'animation de réseau, le FILMED, qui est en fait le réseau de suivi des gestionnaires de lagunes, les journées d'échange qu'on peut organiser, tout ça pour échanger sur les bonnes pratiques de gestion et de restauration avec les gestionnaires, les collectivités, les acteurs socio-économiques et les scientifiques. Et sur ce dernier axe, sensibiliser, on va avoir les actions phares, donc les journées mondiales zones humides, les journées du patrimoine sur lesquelles on s'est davantage investi ces dernières années, et le prix pour le relais Lagune, qui est notamment quelque chose qui avait été demandé par le Comore il y a quelques années et qu'on a mis en place depuis 2011. On a fait la deuxième édition l'année dernière. Pardon. Donc ça, c'est vraiment sensibiliser le grand public et les élus pour susciter des vocations auprès de nouveaux maîtres d'ouvrage. Et l'hypothèse qui est formulée par le programme Pôle Lagune, c'est vraiment que l'ensemble de ces axes de travail et le déroulement de toutes ces actions viennent améliorer la situation des lagunes méditerranéennes françaises. Donc c'est à la fois une meilleure reconnaissance de ces milieux et de meilleures pratiques de gestion qui sont attendues sur le terrain. Tout ce dispositif, en fait, se fait évidemment en lien régulier avec la coordination qui est réalisée par l'ONEMA et avec l'ensemble des pôles relais zones humides. Je vais passer la parole à Nathalie Chautier, donc qui va présenter quelques diapos sur, sur tout ce qui est gestion de l'information. Je voulais juste dire, oui, il y a une synthèse qui vous a été envoyée par mail. Si vous ne l'avez pas reçue, elle est disponible à l'entrée. Je vais la faire passer pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de la consulter. Également, je vais faire circuler la liste des présents, si vous voulez bien émerger.
Donc, le partage des connaissances est réalisé au travers des différents outils du Pôle Lagune. Donc, le site internet, la newsletter La Lettre des Lagunes, les bases de données bibliographiques et annuelles, ainsi que les publications. Notre principal outil de communication est le site internet du Pôle Lagune. Il a été mis en ligne le 2 février 2012 à l'occasion des Journées mondiales zone humide. Et depuis 2 ans, il s'est largement développé. Il a triplé son nombre de pages, donc on a actuellement 1000 pages sur le site internet. La consultation est également en progression constante. Donc on a doublé le nombre de visites par mois. Donc on a actuellement environ 5300 visites par mois. On a également une augmentation d'environ 30% du nombre de pages vues par mois. Donc au total, depuis la mise en ligne, donc en 2012, le site a recueilli 130 000 visites, soit environ 300 000 pages vues. Donc la newsletter La Lettre des Lagunes, donc, qui a également été refondue en 2012, relaie largement les informations du site internet auprès des acteurs des lagunes, et ce de manière régulière. Donc nous produisons 8 lettres par an, plus une lettre hors série sur une thématique spécifique. Donc un effort a été fait sur le nombre de destinataires de la lettre des lagunes, donc, qui est mis à jour régulièrement. Donc on a actuellement 2400 destinataires, c'est-à-dire une augmentation de 1000 contacts depuis 2012. La base de données bibliographique avait été également remise à jour en 2011. Elle compte actuellement 6250 notices issues de la veille ou transmises par les acteurs des lagunes. Donc ce sont près de 750 notices qui ont été ajoutées depuis 2012, ce qui est un petit peu plus que durant la période 2010-2012. Le Pôle Lagune est également devenu contributeur du portail des documents techniques sur l'eau et environ 20% des notices donc de la base bibliographique donc sont envoyées directement sur ce portail. La consultation de cette base s'est nettement améliorée. Alors d'une part, grâce à cette valorisation au niveau national sur le portail des documents techniques sur l'eau, mais également en créant plus de liens avec notre site internet par le biais de bibliographies spécifiques ou de dossiers thématiques. Donc cette année, l'année écoulée, nous avons eu 3000 visiteurs par an contre 700 pour l'année 2011. L'annuaire de compétences est mis à jour de manière régulière. Il compte actuellement 780 acteurs enregistrés et 360 structures. Un certain nombre de publications ont été réalisées en 2013 et 2014. Donc tout d'abord, la brochure à destination des touristes « Et si on partait découvrir les lagunes » qui avait été réalisée en collaboration avec Life Plus Lac Nature a été traduite en version anglaise. Un atlas des zones humides de Corse a été réalisé en 2013, donc il est à destination des élus et acteurs en concertation avec la DREAL de... Il a été réalisé en concertation avec la DREAL de Corse et l'agence de l'ORMC. La méthode à destination des structures opératrices, animatrices de sites Natura 2000, évaluation de l'état de conservation de l'habitat lagune côtière méditerranéenne à l'échelle du site Natura 2000, a fait l'objet d'un rapport de contribution à la méthodologie nationale en 2013 et d'un test de la méthode en 2014 qui permettra d'enrichir donc le guide d'application national. également été réalisé un état des lieux des opérations de connaissance et de gestion des milieux humides littoraux en Languedoc-Roussillon en 2013, qui va permettre d'alimenter le plan d'action zone humide littorale et lagune du SACE. Deux lettres des lagunes hors série ont également été éditées, une fin de début 2014, donc sur les outils disponibles pour la connaissance sur les zones humides, et une à venir, donc fin 2014, sur les pesticides et les lagunes. Enfin, des fiches retour d'expérience donc co-réalisées avec les acteurs des lagunes méditerranéennes ont été réalisées. Donc, on en a actuellement 11 depuis l'année 2011 et 4 qui sont à venir. Elles sont postées donc sur le portail national Zone Humide et elles ont pour but de créer des vocations auprès des maîtres d'ouvrage.
Donc, je vais vous présenter la partie qui concerne plus en fait l'animation du réseau d'échange, puisque c'est une mission principale du pôle Lagune. Voilà, de faire du lien donc avec l'ensemble des gestionnaires et autres acteurs donc des lagunes. Donc, en fait, nous souhaitons donc répondre au mieux aux besoins de créer des moments d'échange et de formation en fait, pour nos gestionnaires. Je vous présenterai le premier point qui concerne donc, les formations avec les experts du réseau. Donc, à ce titre-là, le pôle Lagune souhaite répondre soit à des demandes formulées librement par les gestionnaires en termes de besoins de formation, ou encore on répond aussi à des besoins de connaissances techniques dans le cadre, par exemple, de plans nationaux d'action. Donc, ça a été le cas l'année dernière, par exemple, au mois de mai 2013, nous avons proposé, organisé une journée de formation sur les méthodes d'inventaire et de suivi des populations de sites d'Europe, en partenariat avec l'Adrial PACA, le SEN PACA qui anime le PNA Sud, la déclinaison régionale du PNA Sud en PACA. Donc, nous avons réuni plus d'une vingtaine de gestionnaires de sites Natura 2000 PACA concernés par ce PNA et gestionnaires de la lagune méditerranéenne. Donc, organisé avec la Tour du Valat, sur le site de la Tour du Valat et avec le CEF CNRS. Nous avons également, en juin 2013, proposé une formation, reconnaissance des caracées en zone humide lagunaire, donc aux salines de Villeneuve-les-Maguelones. Donc cette formation était une continuité logique à une formation réalisée l'année précédente sur les macrophytes en PACA. Donc nous avons répondu à une demande de renforcer encore plus cet aspect reconnaissance sur des espèces charophytes. Là, nous avons fait une forme d'atelier formation avec une dizaine de participants de PACA et de Languedoc-Roussillon aux salines. Cette année, en octobre 2014, c'est très récent, nous avons proposé une formation sur le diagnostic des roselières en faveur de l'avifaune paludicole. Cette formation a été organisée par l'équipe du CNLR, Pôle Lagune, Seine, et sur l'étang, notamment sur le site du Méjean à Latte, en Languedoc-Roussillon. Nous avons réuni une totalité de plus de 24 gestionnaires, une 40 personnes. Voilà, mais effectivement, il y avait 35 gestionnaires. Voilà, organisé avec des experts autour du Valat, Brigitte Poulain, qui est présente en salle, donc qui nous a largement aidé à la fois pour le montage de la formation et pour également l'édition à venir d'un mémento technique qui reprendra globalement ce qui a été dit lors de cette formation sur les aspects techniques de diagnostic des roselières. Nous avons également dans cette formation présenté un certain nombre de retours d'expérience par 4 ou 5 structures gestionnaires languedociennes, essentiellement. Au vu de ces formations, ce qu'on perçoit nous en termes de retour, parce que nous émettons des fiches d'évaluation suite à ces formations-là pour voir effectivement le taux de satisfaction. Nous sommes grandement, contentes de voir que les participants sont toujours très satisfaits donc à plus de 75%, la plupart du temps, sont même très satisfaits. Donc je pense que l'atout, c'est effectivement de miser à la fois sur des retours d'expérience, des retours d'experts scientifiques, donc un bon nombre d'échanges qui se font donc, entre ces différents acteurs, gestionnaires ou scientifiques, donc, sur des problématiques similaires. Et quelque part, c'est aussi un tremplin pour nous, pour animer un autre point qui viendra après, donc qui concerne la plateforme gestion recherche. Donc, dans le même, toujours dans ce volet animation du réseau, nous proposons aussi des journées d'échange, donc des journées plus d'information pour partager et nourrir de nouveaux projets. C'est le cas, par exemple, en juin 2014, donc, nous avons proposé au Marais du Viguera une journée d'échange sur les indicateurs de suivi de la fréquentation sur les milieux littoraux. Alors, cette journée d'échange est arrivée, non pas par hasard, mais plutôt dans la continuité des travaux du Life plus la Nature, puisqu'il y avait une restitution en fait en 2013, où finalement donc on a échangé avec les scientifiques, Christelle Audouit en tout cas, géographe, chercheuse géographe, qui a travaillé sur ce thème des indicateurs et la gestion de la fréquentation sur les milieux littoraux du Languedoc-Roussillon dans le cadre du Life. Et avec Christelle, nous avons conclu que ce serait bien d'approfondir aussi ce sujet et surtout de l'émanciper à une échelle PACA. Donc nous avons proposé ce thème-là en juin pour pouvoir répondre effectivement aussi à cette demande de travailler davantage sur des méthodes standardisées pour le suivi de cette fréquentation. Donc nous avons fait intervenir un certain nombre de personnes, des universitaires donc de Bretagne, du nord de la France, et des gestionnaires alors d'un petit peu partout et pas forcément que des lagunes, notamment Parc National de Port-Cros, donc des personnes qui ont travaillé sur des observatoires de la fréquentation, qui nous ont amené aussi un certain nombre d'outils qui ont été largement discutés dans cette journée pour avoir des méthodes qui permettent de bancariser les données, de standardiser aussi donc, ces indicateurs enfin, à plusieurs sites et suivant les échelles de sites, d'avoir donc, en fait, voilà, des outils qui puissent être utilisables d'un milieu lagunaire à un autre, mais ça concerne même plus largement les milieux littoraux. Le réseau d'échange, c'est aussi donc l'animation d'une plateforme à venir, donc qui est en cours de, on va dire qu'elle n'est plus tellement en cours de construction puisqu'il reste surtout une journée en fin de mise en route de cette plateforme à faire. Donc cette plateforme recherche-gestion entre scientifiques et gestionnaires, c'est une demande aussi qui émane de nos précédents communs. Et aujourd'hui, en fait, depuis donc 2012, nous avons donc avancé sur ce thème-là en produisant à la fois un document de cadrage des objectifs de cette plateforme qui vise donc à favoriser le transfert de connaissances et le montage de projets collaboratifs. Donc ça fera tout à fait l'objet de l'atelier 1 tout à l'heure. Nous avons donc également avancer sur cette plateforme d'une certaine manière en produisant des journées, en organisant des journées, notamment sur la restitution finale d'un projet Vito de recherche, le projet GELAMED, d'ailleurs nous avons Dominique Lassard présente avec nous, qui était donc une personne sur les sciences sociales, donc nous va peut-être faire le lien sciences sociales et puis également sciences tournées vers le zooplancton gélatineux, donc porté par le laboratoire Ecosyn à Montpellier. Donc en 2013, nous avons fait une restitution pour les gestionnaires des lagunes méditerranéennes des deux régions. Et donc notre prochaine journée de plateforme, prévue donc pour début 2015, sera une journée portant sur le thème de la télédétection et la cartographie des milieux lagunaires. Donc nous sommes en train de la préparer pour pouvoir effectivement donner vie donc, en janvier-février 2015. Et donc ce thème ressort aussi des travaux réalisés dans le cadre donc, du MNHN et de l'ONEMA donc, sur les acquis opérationnels donc, de la recherche. Voilà, où nous avons porté une attention particulière sur ces travaux pour savoir quoi cibler aussi comme thématique qui pourrait être comme prioritaire par les gestionnaires de milieux de zones humides, de milieux lagunaires entre autres. Donc le FINMED, un autre point important donc, de notre réseau d'échange, qui est donc le Forum interrégional des lagunes méditerranéennes. Donc c'est notre réseau donc, de gestionnaires des milieux lagunaires, aujourd'hui donc un réseau qui s'est émancipé jusqu'à la Corse, pour ceux qui nous connaissent déjà pas mal, donc sur le Languedoc-Roussillon, il a été initié pas sous ce nom-là, mais déjà il y a 17 ans, donc c'est un réseau assez ancien, enfin, qui en tout cas a aussi beaucoup de données du fait de son ancienneté, qui s'est émancipé en PACA en 2007 et en Corse donc plus récemment. Donc nous intervenons sur la coordination de ce réseau à une échelle donc interrégionale, en proposant effectivement des journées dédiées à ce réseau. Et puis finalement, ce sont aussi les mêmes personnes qui vont être nos participants à nos journées d'échange et de formation. Ce réseau donc bénéficie de l'appui d'un référent technique et d'un référent scientifique d'ailleurs, qui sera Roger De Witt. Voilà, puisque je peux vous l'annoncer, c'est quand même assez récent. Effectivement, Roger De Witt reprendra la partie donc référent scientifique et pourra suivre donc les gestionnaires aussi dans leur interprétation des données. Donc ce réseau vise à faire du suivi physico-chimique des milieux lagunaires pour que les gestionnaires puissent avoir donc effectivement des données les aidant aussi à la gestion de leur milieu. Donc nous, dans ce cadre-là, nous les aidons notamment pour l'étalonnage du matériel, nous avons des boîtes à outils pour ce travail de suivi, et nous organisons effectivement des journées d'échange permettant donc de travailler sur des thématiques proches donc de la gestion, ou encore faisant le lien également aussi avec la recherche. Donc pour ce qui est des données, donc, elles sont toutes intégrées à une base de données du suivi, et nous diffusons ces résultats par documents PDF qui sont directement mis en ligne sur le site web du pôle. Enfin, concernant donc le montage de nouveaux projets en 2013-2014, donc comme l'avait cité donc Virginie tout à l'heure, nous finissons actuellement donc notre projet FEDER renforcé des activités du pôle Lagune en PACA, normalement finalisé en mars 2015, et donc qui a permis effectivement de gagner aussi un nombre de gestionnaires qui ont donc fait une convention pour le FILMED, donc avoir des actions au plus proche en fait avec eux sur leur territoire, donc chose qui n'avait pas forcément pu être fait les années auparavant, avant donc ce FEDER. Et donc c'est un grand bénéfice de pouvoir émanciper certaines actions en PACA. Et là, nous avons également pu rebondir sur un autre projet FEDER, mais qui sera bien plus court celui-ci, qui vise donc à faire des films sur la valorisation paysagère des milieux lagunaires et de l'étang vert. Donc nous aurons deux films. Alors sur ce projet-là, nous avons un cofinancement FEDER et Agence de l'eau pour ces deux films. Donc il y aura un film de 5-6 minutes plus pédagogique, donc très grand public, mais aussi avec classe d'âge. On va dire collégien à peu près, pour expliquer ce que sont les milieux lagunaires. Et un film de 20 minutes qui peut être à la fois vu comme grand public, mais quand même assez tourné, aménageur du territoire, élu, acteur de la gestion des milieux lagunaires. Et c'est sur l'étang vert, donc quand même un territoire assez particulier, où effectivement la problématique paysage peut être vue vraiment à part entière dans un film. Et donc ces deux films seront réalisés par Océanide, une association que nous connaissons très bien, n'est-ce pas Adrienne, qui travaille beaucoup sur les milieux lagunaires et toutes les thématiques associées aux milieux lagunaires. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est quoi la suivante, c'est bon. Voilà.
Donc moi, je vais poursuivre sur l'axe 3 du programme d'action du pôle, hein, donc autour de la sensibilisation. Le pôle s'appuie sur des actions phares pour mettre un coup de projecteur sur ces milieux, pour qu'ils soient davantage reconnus et vraiment emmener l'ensemble des acteurs à la cause de ces milieux. Donc un événement incontournable, c'est bien évidemment la Journée mondiale des eaux humides, qui se passe le 2 février de chaque année et qui vient célébrer la signature de la Convention internationale Ramsar en faveur de la préservation des milieux humides au niveau mondial. Donc le pôle, depuis 10 ans, donc a fêté un peu ses 10 ans cette année de coordination de ses animations en Méditerranée, donc avec une participation toujours plus soutenue des acteurs pour proposer des animations. C'est devenu pour les gestionnaires et les structures d'éducation à l'environnement un événement classique de leur programme d'animation et de sensibilisation sur les territoires, malgré la mauvaise période souvent mise en avant de ce mois de février, c'est aussi une période où il n'y a pas d'autres animations finalement, pas d'autres événements de sensibilisation. Donc ça permet de mettre mieux en lumière ces milieux. Depuis quelques années, il y a une coordination au niveau national via le portail national The Limit, donc avec l'ONEMA qui est faite, donc avec une vraie visibilité de ces journées et de ces animations au niveau national, un peu comme la fête de la nature le fait aussi depuis quelques années. Dans le cadre de sa coordination, donc chaque année, le pôle édite des documents de communication, donc une affiche spécifique à la Méditerranée. Donc, à partir de cette année, je crois qu'il va y avoir des affiches nationales déclinées aussi, peut-être localement. Et puis, un petit programme, alors il y a peut-être des exemplaires, le programme des animations sur l'ensemble du littoral. Donc, il y a chaque année une centaine d'animations et toujours plus de participants. Ça dépend des années, du thème et surtout de la météo. Mais on voit une progression d'autres types d'animations, type conférences, ateliers qui grandit et qui est plus, enfin voilà, un moyen plus facile de toucher le public à cette période-là. On peut citer les animations spécifiques au jeune public avec le grain de PACA. Donc en PACA, c'est quelque chose qu'on faisait en langue de Roussillon depuis de nombreuses années, et puis voilà, qui s'est arrêté en 2012 faute de financement, mais le relais a été pris via les financements du FEDER en PACA, donc avec un partenariat monté avec le grain de PACA qui se poursuit et qui fonctionne très bien. Donc spécifiquement, donc public scolaire et surtout accueil, ce qu'on appelle l'accueil collectif de mineurs, qui sont les centres aérés, en plus simple. Et puis, une des recommandations du comité d'orientation il y a 2 ans, c'était de se dire, bon, il y a pas mal d'animations qui se font, pas mal de participants, mais est-ce qu'on arrive vraiment à toucher les publics, notamment les publics plus socio-professionnels ou institutionnels. Donc, une des recommandations, c'était d'organiser une manifestation d'envergure régionale plus spécifique au thème. Ce qui a été fait donc cette année en Camargue, là, donc la thématique 2014, c'était l'agriculture et les zones humides. Donc ça a permis d'échanger et de sensibiliser un certain nombre de participants sur la thématique. À noter que la prochaine journée mondiale, donc c'est bien le 2 février 2015, et la thématique c'est les zones humides et notre avenir. Donc ça invite à aller vers les jeunes générations et les générations futures pour aussi les embrigader dans la cause des milieux humides. Depuis quelques années, depuis 5-6 ans, le pôle a investi les journées du patrimoine en se disant que ça permettrait de... Enfin, l'idée de l'événement est de toucher un public plus large, très... Enfin, voilà, qui est fidèle aux journées du patrimoine, mais qui n'est pas forcément... qui ne va pas forcément visiter ces espaces où la culture et le patrimoine culturel et le patrimoine naturel est très lié quand même sur ces milieux littoraux. Et donc ça fonctionne très très bien. Alors on a été aidé cette année parce qu'en 2014 la thématique était patrimoine culturel, patrimoine naturel. Donc évidemment il y a 2 fois plus de structures se sont investies cette année pour proposer des animations. On a moitié plus de participants. Ça devient aussi un événement incontournable pour aborder ces milieux d'un autre regard et puis toucher des publics qu'on ne touchait pas jusqu'ici. Et donc on a alors comme pour les journées mondiales, depuis 3 ans, on édite un bilan assez communicatif. On a réalisé le même cette année. Donc vous en avez des exemplaires. Sur la table au fond, et on va recevoir bientôt normalement les exemplaires de l'imprimeur qui vous seront transmis. Donc voilà. Je ne sais pas si je laisse la parole à Gwenaëlle pour finir.
Donc, pour terminer sur l'axe sensibilité autour des actions phares, je vais vous présenter maintenant un petit état d'avancement du prix Pôle Relais Lagune Méditerranéenne, qui est une action qui avait été demandée par un précédent comité d'orientation également, et plus précisément le prix Pôle Relais Lagune Méditerranéenne 2013. Donc, le but de ce prix Pôle Relais est de valoriser les actions innovantes, de sensibiliser les élus et de susciter des vocations. Le thème de la culture et de la création artistique sur les territoires lagunaires a été retenu pour l'année 2013 et nous avons voulu faire cette action en parallèle de l'événement Marseille-Provence 2013. Donc le prix Pôle Relais Lagune Méditerranéenne 2013 a été remis au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée pour le projet Archives du Sensible. Donc c'est un projet qui se voulait déjà dynamique sur le territoire, mais nous avons voulu renforcer cette dynamique via donc la remise de ce prix. Les élus y ont trouvé un très grand intérêt du fait d'avoir une reconnaissance qui était extérieure à ce territoire et une valorisation d'un niveau national. Ils ont également trouvé un très grand intérêt à la récompense que nous leur avons remise, qui était une récompense sous forme d'un court-métrage de M. Samuel Thomas. Et ce court-métrage avait pour objectif de valoriser le projet, mais également le territoire. Et cette récompense a été largement reprise au niveau du territoire, puisque les élus s'en sont vraiment emparés et l'utilisent très largement comme outil de communication. Donc c'est un point quand même que nous voulions vous souligner. Voilà pour ce prix pour le relais. Je vais laisser la parole à Virginie pour conclure.
Donc juste brièvement un peu la stratégie du Pôle Lagune qui vous a été présentée selon ces trois axes d'action pour qu'on ait vraiment le cadre de travail des réflexions que vous apporterez là dans le cours de la journée. Donc on souhaiterait vraiment avoir ce que vous pensez être nécessaire à notre action sur ces trois thèmes d'action, là, la plateforme recherche-gestion, l'aménagement du territoire et la sensibilisation des élus. L'idée c'est vraiment d'avoir vos recommandations, mais en rapport avec notre action. Il ne s'agit pas d'avoir tout ce qu'il faudrait faire sur l'aménagement du territoire en rapport avec les zones humides. On veut vraiment, parce que c'est vrai que c'est difficile de cadrer un peu les recommandations qui sont faites, mais nous, ce qu'on recherche là vraiment dans le cadre de cette journée, c'est d'avoir votre avis sur le rôle qu'a à jouer le Pôle Relais Lagune dans ce cadre-là, pour qu'ensuite on puisse vraiment mettre en place ces actions sur les territoires. Donc, je vais simplement rappeler les thèmes des ateliers. Donc, plateforme recherche-gestion, c'est le premier atelier. Donc, ça a été modifié hein, par rapport à la première invitation qui avait été transmise par l'ADREAL. Donc, l'idée, comme l'a rappelé Nathalie, c'est de... Donc, on a cette action qui réunit les scientifiques et les gestionnaires et qui a vraiment deux objectifs majeurs. C'est à la fois le transfert de connaissances auprès des gestionnaires, mais aussi le montage de projets collaboratifs. Et donc là, l'idée de l'atelier, ça va être vraiment de voir quelle peut être la forme et le contenu de cette plateforme. Que pensez-vous de cette action? Donc notamment des thématiques qui pourraient nous être données. Le deuxième, c'est vraiment de voir quelle peut être l'action du pôle pour promouvoir en fait une meilleure considération des zones humides littorales dans les documents de planification. Donc, quel va être le rôle du Pôle Lagune dans tout ça? Et le troisième, donc c'est ce qui concerne la sensibilisation des élus et décideurs. C'est un sujet qui préoccupe le Pôle depuis plusieurs années et qui notamment avait été relevé comme un des manquements, si on peut dire, des pôles relais. C'est-à-dire que la lisibilité auprès des élus, en fait, manquait finalement de corps. Et c'est ce qui avait été relevé par l'évaluation en fait qui a été faite dans le cadre du dernier plan d'action. On avait Thierry Lavoux là qui coordonnait cette mission en 2012, qui était venu participer au comité d'orientation. Donc c'est lui qui avait fait part en fait notamment de son regard très positif sur l'action des pôles relais au sein de l'évaluation. Mais néanmoins, il avait relevé que notre action au niveau des élus et décideurs était peut-être peu lisible et demandait à être améliorée. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment le pôle Lagune peut communiquer efficacement auprès de ces publics-là, au niveau des enjeux des lagunes méditerranéennes, évidemment, pour encourager véritablement une inflexion des politiques. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre action en la matière? Donc on vous présentera ce qu'on a prévu. Donc voilà, je crois que ça a été largement rappelé. Donc proposer des orientations en fonction de vos besoins pour optimiser l'action du pôle Lagune au regard de ces trois thèmes. Pour bâtir un programme d'action 2015-2016 qui soit plus pertinent, plus efficace et en rapport avec les besoins du terrain sur les lagunes. Voilà, donc je vous propose de prendre quelques questions si vous en avez au niveau des présentations qui ont été faites ce matin. Sur les axes d'action que vous avez peut-être notamment lus dans la synthèse qui vous avait été envoyée. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on est particulièrement clair et... Non, pas de questions. On vous a complètement assommé. Ah, une question, merci.
C'est pas vraiment une question, c'est peut-être plus un tout petit complément. Ouais. Je vais saluer ici le rôle du pôle relais pour faire émerger des projets, et notamment des projets LIFE. Je pense qu'il y a un premier projet qui s'appelait LIFE plus LIFE Nature, qui a été très largement appuyé par le pôle relais Lagune. Il y a un autre projet qui est en cours et sur lequel je travaille aussi, qui est le LIFE plus Envol, et qui a très très largement bénéficié du pôle relais, notamment lors de son montage et maintenant lors de sa mise en œuvre. Ça mérite d'être signalé.
Merci. Oui, c'est vraiment la vocation du pôle de... On ne peut pas porter l'ensemble des projets qui vont se construire sur les lagunes, mais c'est vraiment la vocation de susciter un peu des envies, des besoins, des montages de projets collaboratifs qui soient ensuite portés par des partenaires et qu'ensuite on relaie évidemment au niveau du réseau. Si vous n'avez pas d'autres questions, on est parfaitement dans les temps. On va faire une petite pause pour ensuite vraiment entendre votre avis au niveau des ateliers. Donc on va faire l'atelier 1, je pense au niveau de la bibliothèque. Donc l'atelier